À la tête de l'association Égalité Parentale, Maxime Villejobert milite pour une réforme profonde du droit de la famille. Convaincu que l'enfant a besoin de ses deux parents après une séparation, il plaide pour une coparentalité équilibrée, dénonçant les inégalités persistantes dans les décisions de justice. Dans l'entretien qui va suivre, il revient sur les combats de l'association, les évolutions nécessaires et l'urgence d'un changement de paradigme pour le bien-être des enfants et les quitter entre parents. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours personnel et professionnel?
Ouais, donc alors moi c'est Maxime Villejobert. Je travaille dans la restauration depuis 2017 et je suis engagé dans l'associatif depuis 2021. Je me suis séparé à cette date et c'est ce qui m'a fait m'engager. Je suis d'abord atterri sur un groupe qui s'appelle Papa en colère où j'ai rencontré deux personnes qui m'ont beaucoup aidé et j'ai décidé de m'engager avec eux sur ce groupe où j'ai passé énormément de temps. Donc en 2021, j'ai décidé de revendre mon restaurant pour pouvoir m'engager un peu plus dans l'associatif.
Comment t'es devenu président de l'association Égalité Parentale?
Et ben justement avec ce groupe là, donc on est 23 000 personnes et il y a beaucoup d'associations qui venaient poster leurs demandes, leurs combats. Et j'ai découvert l'association Égalité Parentale, j'en ai découvert aussi d'autres et je me suis beaucoup retrouvé dans les valeurs. Voilà, j'ai rencontré des personnes au sein des égalité parentale avec qui j'avais ce sentiment qu'on était sur la même longueur d'onde. Donc en 2023, fin 2023, le président voulait arrêter son mandat de président et du coup m'a proposé de reprendre la suite. J'étais déjà assez proche d'eux, hein, je faisais des petites actions. Je me rendais à leurs manifestations, je discutais avec eux, je leur apportais des pistes ou des rendez-vous, enfin voilà, on communiquait beaucoup et c'est là où donc la personne m'a contacté pour savoir si je voulais reprendre la suite.
Alors quels sont les principaux objectifs de l'association Égalité Parentale?
Alors l'association elle a deux buts. Un premier c'est du soutien auprès des parents, donc pour ça on a deux écoutants qui nous permettent de proposer aux parents d'être écouté dans leur situation. Ces situations, c'est des situations très difficiles, personnelles, et c'est très compliqué de pouvoir répondre à toutes les problématiques, on va dire, juridiquement parlant. Donc, nous, l'association, elle propose essentiellement un soutien. On propose pas d'avocat, par exemple, comme certaines associations peuvent le faire, parce que selon moi, aider chaque cas, c'est très, très compliqué. Donc c'est pour ça que sur le deuxième volet, on choisit plutôt de sensibiliser les politiques et les médias sur le sujet. Donc les politiques en leur apportant des chiffres, des constats et des solutions à apporter, tout en gardant un peu l'objectif, c'est-à-dire que chaque parent soit défendu correctement devant les juridictions. Donc on a un constat qu'on développe avec les politiques pour essayer de trouver des solutions ensemble, dans l'intérêt commun tout simplement. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie de l'association. Il y a d'abord l'aide personnelle et puis on va dire un lobbying politique qui permet de faire prendre conscience aux politiques de ce qui se passe dans la justice familiale.
Quelles sont les situations auxquelles vous êtes confrontés le plus souvent dans ces situations de séparation de parents avec enfants?
Alors, dans les séparations parentales, il y a plusieurs problématiques. La première, c'est un recours très faible à la résidence alternée, ce que nous on défend, on dénonce, je veux dire, énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les juges y favorisent clairement un des deux parents. Souvent celui-là qui a l'enfant avec lui au moment du départ, d'ailleurs, et ils ont très peu recours à la résidence alternée, donc ça c'est des situations qu'on peut retrouver quasiment systématiquement, c'est-à-dire un parent qui a tous les éléments pour avoir la résidence alternée, qui en fait peut-être des fois 4-5 fois la demande auprès du juge, et qui se la voit refuser à chaque demande, malgré qu'il ait un DVH le week-end, qu'il n'y ait rien du tout qui aille à l'encontre de ça, hein, sauf éventuellement le désaccord de l'autre parent. Une situation géographique, c'est toujours à l'appréciation des juges, puisque lorsque les deux parents sont d'accord, même s'il y a une heure de route entre les deux parents, ça pose aucun problème. Et parfois, 10 minutes de route pour certains autres juges, ça pose problème. Donc, il y a vraiment cette disparité et le fait que les juges, ils n'accentuent pas l'intérêt de l'enfant sur, sur sa stabilité avec à entretenir des liens avec ses deux parents. Aujourd'hui, on voit beaucoup que les juges ils rappellent que l'enfant a besoin de stabilité, a besoin de repères, a besoin de sécurité. Le juge va prendre en compte ces éléments uniquement d'un point de vue matériel souvent et pas émotionnel. Il va pas se dire l'enfant il va être séparé d'un de ses deux parents 80% du temps et il va perdre cette stabilité émotionnelle. Ils vont se baser uniquement sur le matériel, il faut qu'il ait le même lieu, à la place de se dire bah, faudrait peut-être qu'il ait une stabilité et qu'il voit autant ses deux parents. Quoi. Et sinon, voilà. Après, les autres choses qu'on peut voir, c'est les exclusions parentales sévères, on va dire, où l'un des deux parents est privé complètement du lien avec ses enfants. Souvent par manipulation de la justice, c'est-à-dire qu'on va dire oui, mais l'enfant ne veut pas, tout simplement. Il veut plus aller voir l'autre parent, donc je peux pas le forcer. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'on est les parents et c'est nous qui mettons la règle. Aujourd'hui, un enfant qui a pas envie d'aller à l'école le matin, on lui dit pourquoi tu veux pas aller à l'école, mais tu y vas quand même. Aujourd'hui, un enfant qui veut pas voir son autre parent, on va pas spécialement se poser cette question. On va plutôt aller dans son sens. En fait, on va conforter notre propre décision avec celle que l'enfant a prise.
Est-ce que tu peux nous parler de la marche entre Paris et Strasbourg à laquelle tu as participé ?
Ouais, donc en 2022, moi j'avais suivi la première marche qui avait eu lieu entre Marseille et Paris en 2021. C'était le tout début de mon engagement, donc j'avais pas pu, puis j'avais encore mon restaurant à l'époque, donc c'était un peu compliqué pour moi de m'engager avec eux. Et puis le projet était déjà lancé. Donc je les avais suivis, je les avais un petit peu aidés, je leur avais donné des pistes, on avait échangé, mais j'avais pas pu m'engager. Et en 2022, on m'a proposé donc de les rejoindre pour faire Paris-Strasbourg à pied. C'était déjà une super expérience humaine. Ça nous a permis de discuter de nos problématiques, d'échanger entre nous, de passer vraiment du temps que à ça. On était vraiment déconnecté de tout le reste. Et ça a permis de passer effectivement 22 jours. Donc, on a fait 22 jours de marche à essayer de trouver des solutions, à proposer des choses, à rencontrer même des gens sur la route à qui parler de ce problème qui ne connaissaient pas du tout. C'était une belle expérience humaine et à la fin voilà, on a atteint notre objectif, donner un peu de visibilité au problème, on a réussi à faire saisir un peu de médias sur le sujet, des radios, des journaux locaux, des journaux régionaux et à l'arrivée France 3 Région, France Bleu, enfin voilà, des médias assez connus, donc c'est pour nous ça a été quand même l'objectif, on va dire, a été rempli.
Et selon toi, quels sont les principaux obstacles à l'égalité parentale aujourd'hui ?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'aspect un petit peu sociétal, on va dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens dans leur tête pensent que la maman s'occupe mieux de l'enfant que le papa, que c'est avec la maman que l'enfant a le plus de liens. Du coup, il faut surtout pas rompre ce lien. On dit pas qu'il faut rompre ce lien. Hein. On dit que les liens doivent être plus équilibrés, la société a changé. Les théories de l'attachement qui avaient été faites la théorie de l'attachement du coup qui a été faite il y a 70 ans, elle est plus d'actualité dans le monde dans lequel on vit. À cette époque-là, effectivement, le lien d'attachement, il se faisait qu'avec et essentiellement avec la maman, puisque c'était elle qui restait à la maison, elle n'avait pas le droit de travailler, elle n'avait pas le droit d'ouvrir son compte bancaire. Enfin, c'est quelque chose qui paraissait logique à l'époque, mais si on le remet dans le contexte historique, effectivement, ça paraît logique. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des sorties avec l'école, j'ai fait les Olympiades au sein de l'école de mon fils, y avait autant d'accompagnement maman que d'accompagnement papa. Ne pas voir se traduire ce constat que je peux faire au quotidien dans les décisions de justice, c'est je pense c'est une des choses qui fait que ça n'avance pas. Et puis la deuxième, c'est je pense un courage politique aussi, hein. Il y a eu plusieurs propositions de loi depuis 2017, hein, à l'initiative de notre association, et à chaque fois le courage politique n'est pas forcément au rendez-vous, c'est-à-dire que oui, on voit bien qu'il faut faire avancer les choses, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais pour autant, on va pas essayer d'offenser le parti politique ou les électeurs ou ce genre de choses. On ne travaille pas en politique. Il n'y a pas forcément le sens de l'intérêt commun, en tout cas pour tous les politiques. Certains politiques que l'on rencontre, eux, sont très engagés, veulent faire avancer les choses, et c'est le cas de Madame Le Nabour avec la PPL 819. Et certains politiques sont très engagés sur le sujet et voient qu'il y a un problème. Mais d'autres, voilà, freinent un petit peu en se disant, je veux pas vexer peut-être mes électeurs ou je veux pas m'engager sur cette voie. Parce que je pense que c'est pas bon pour moi.
Alors justement, quelles sont les réformes législatives ou judiciaires que tu préconises pour améliorer cette situation ? Et est-ce que tu peux nous détailler un peu plus cette histoire de PPL 819 ?
Alors oui, tout à fait. Alors on a été à l'initiative de plusieurs PPL, enfin l'association a été à l'initiative de plusieurs PPL ces dernières années. Toujours essentiellement la même, hein. On a décliné nos PPL, en fait, au fur et à mesure où on avait des rendez-vous avec le législateur, justement, où peut-être le législateur nous donnait des conseils en nous disant ça, faut pas le mettre là, notamment Madame Charlotte Caubel, à l'époque qu'on a rencontrée, qui était ministre de l'enfance, enfin pas ministre, mais attachée auprès de la ministre des Familles à l'enfance. Voilà, donc on a fait évoluer ce texte plusieurs fois. C'est un texte qui vise à prioriser la résidence alternée. C'est très important de dire prioriser et pas automatiser, parce que de toute façon en justice on ne peut pas automatiser, hein. C'est quelque chose d'interdit. On peut pas aller à l'encontre de l'interprétation du juge, hein. On peut pas lui imposer quelque chose. Donc de toute façon ce sera pas automatique, hein. C'est quelque chose de pas faisable. Mais la prioriser, c'est-à-dire que le juge, il doit d'abord dire pourquoi il donne pas la résidence alternée. Plutôt que de dire pourquoi il donne une résidence classique. Aujourd'hui, le juge, s'il a envie de dire l'enfant a ses habitudes avec parent A et donc je mets la résidence chez lui, il a tout à fait le droit de le faire sans pour autant dire pourquoi il veut pas de la résidence alternée. Cette réforme qui se ferait dans ce sens, c'est-à-dire à prioriser la résidence alternée, elle aurait deux choses qui seraient intéressantes. C'est d'une, apporter plus rapidement de la jurisprudence sur le sujet de la résidence alternée, c'est-à-dire que les jurisprudences, elles seraient plus vite, il y en aurait de plus en plus, et ça permettrait de faire évoluer le droit, on va dire, dans ce sens. Et la deuxième, ce serait que vraiment le juge, il regarde cette résidence alternée. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le juge, il balaye cette résidence alternée, c'est-à-dire qu'il regarde pas les dossiers. Peut-être qu'il juge, après, ils ont pas forcément le temps, hein. Il juge hâtivement et il se plonge pas dans le dossier pour savoir ce qu'il en est réellement. Donc voilà, c'est vraiment sur ce texte-là que nous, l'association, on a toujours travaillé et on continue de travailler. Et pour les réformes futures qu'on pourrait proposer, enfin, on n'a pas trop d'idées. Nous vraiment, le but, c'est d'arriver à faire passer cette proposition parlementaire de loi 819. Qui priorise la résidence alternée, pouvoir avancer, et puis ensuite on verra ce qu'on fait avec celle-ci, quoi. Avec d'autres, si on a d'autres propositions à faire, mais pour l'instant, en tout cas, on fait cette proposition-là.
Alors, comment vous sensibilisez le public avec l'association et les institutions à cette cause ?
Alors, les institutions, on a la chance d'avoir énormément de rendez-vous avec le législateur, donc c'est avec les députés, les sénateurs, essentiellement. Et on a des bons contacts aussi avec certains ministères, donc qui nous dès qu'il y a un changement de ministre de gouvernement, nous convoque afin de voir ce que nous pouvons leur proposer. Là, on a eu dernièrement deux rendez-vous avec le ministère de la Justice, et notamment au sujet de la PPL 819. Donc Madame Le Nabour, la députée, nous a accompagnés au ministère, c'était il y a un mois à peu près, avec aussi la magistrate belge, Marie-France Carlier, qui elle préconise un consensus parental, c'est-à-dire une médiation un peu plus poussée, qui permet aux parents de se mettre d'accord. Il faut savoir qu'en Belgique, la résidence alternée, elle est depuis 2006, elle est inscrite dans la loi, et elle est priorisée en Belgique. Donc en fait, elle combine ce consensus parental avec la résidence alternée priorisée, ce qui permet d'avoir un taux de résidence alternée en Belgique qui est bien supérieur à celui de la France, donc qui est de 40% là-bas, contre 14% d'après la dernière étude INSEE en France, qui est de 2022, même si on regarde encore quels critères ont été mis pour juger qu'il avait une résidence alternée ou non, puisque en 2021, il y avait 12%. Donc elle est en augmentation, mais on ne sait pas si ce sont les mêmes critères qui ont été utilisés par l'INSEE pour déterminer ces deux chiffres.
Justement, il y a de plus en plus de pays en Europe qui généralisent la résidence alternée. Comment expliquer que la France soit un peu à la traîne sur le sujet?
Alors, beaucoup de pays l'ont fait passer il y a déjà un petit moment en arrière. Comme j'ai dit, la Belgique, je crois que c'est 2006. L'Espagne, ça doit être à peu près dans les mêmes eaux. Les pays nordiques sont très, très en avance, mais d'un point de vue général, hein, c'est pas que sur la résidence alternée, c'est vraiment global. Effectivement, ça fait longtemps qu'ils ont légiféré sur ce sujet et ils reviennent pas en arrière. Ils gardent ce sujet. Effectivement, et il y a d'autres pays qui, il n'y a pas longtemps, ont décidé de légiférer sur le sujet. Il y a la Suisse, il me semble, fin d'année dernière. Il y a la principauté de Monaco aussi qui a décidé de s'emparer du sujet. On va être l'un des derniers pays à pas l'avoir fait. Il y a, il me semble, aussi l'Allemagne qui a beaucoup de retard sur le sujet. Mais effectivement, la majorité des pays européens sont très, très, très en avance sur la France. Pourquoi la France ne travaille pas sur le sujet, je ne saurais pas le dire. C'est peut-être une culture différente de là-bas, malgré que les Belges soient très proches de nous et qu'on ait des cultures rapprochées. Mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, là, la nouvelle PPL, donc la PPL 819, a quand même recueilli 77 co-signatures de députés à ce jour, ce qui fait un député sur 4 ou, enfin, entre 4 et 5 qui ont été invités à co-signer cette PPL. Donc un député sur quatre, c'est déjà énorme et on pense, on espère pouvoir voir cette PPL à l'ordre du jour et qu'elle puisse être discutée en hémicycle.
On peut assez facilement imaginer que s'il y a autant de pays, ne serait-ce qu'en Europe, qui ont généralisé cette résidence alternée et si ces pays en question ne reviennent pas en arrière, c'est que ça fonctionne plutôt pas mal.
Oui, tout à fait, et surtout, enfin... aujourd'hui, les opposants à cette réforme mettent en avant essentiellement les violences. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les violences, elles ont aussi lieu dans les familles unies, dans les familles séparées où il n'y a pas forcément de résidence alternée, c'est-à-dire où il y a un seul parent qui a la garde de l'enfant. Et c'est ce parent-là qui exerce la violence. La violence, on la met en avant pour justement, enfin en France du moins, pour essayer de retarder cette réforme. Mais si on prend l'exemple de l'Espagne, où les violences intrafamiliales sont traitées de manière a priori extraordinaire, puisque ces mêmes personnes qui s'opposent à la réforme sur la résidence alternée disent qu'il faut prendre exemple sur l'Espagne sur le traitement des violences intrafamiliales, se rendent pas compte qu'en fait en Espagne il y a la résidence alternée. Donc les pays effectivement reviennent pas en arrière et malgré qu'il y ait la résidence alternée de principe, il y a aucun effet qui montre qu'il y a une augmentation de la violence ou que les enfants sont moins bien. Donc c'est pour ça qu'ils reviennent pas en arrière, parce qu'ils voient les bénéfices de la résidence alternée plutôt que le négatif, ceux qui s'opposent à cette réforme essayent de faire comprendre en France.
Alors, quels sont les projets futurs de l'association Égalité Parentale?
Alors, nos projets... Alors, déjà, on va essayer de se concentrer sur le projet actuel, c'est la PPL 819, hein, en la faisant voter. Les projets futurs, ça pourrait être un accompagnement des parents après cette réforme, parce que malgré que cette réforme soit mise en place... Enfin, si elle venait à être mise en place demain, il y aurait quand même clairement... un accompagnement auprès des parents pour le montage de dossiers devant les juridictions qui leur permettrait de l'avoir. C'est-à-dire que cette proposition parlementaire de loi, elle va pas tout changer demain. C'est très symbolique et ça va effectivement engager les juges à plus la donner, mais c'est pas pour autant que demain le taux de résidence alternée va bondir de 20 ou 30%. Donc c'est peut-être plus dans l'accompagnement des parents du montage des dossiers que là... l'association s'engagera.
Alors comment les citoyens peuvent-ils s'engager ou soutenir la cause de l'association Égalité Parentale?
En tant qu'associatif, ce qu'on a besoin, c'est essentiellement des personnes volontaires et qui souhaitent nous aider à aller au rendez-vous politique, que ce soit déjà aussi des personnels du droit, on va dire. Des professionnels, hein. On a quelques avocats qui nous accompagnent lors de nos rendez-vous, donc c'est plutôt positif. Et c'est vrai que on manque quand même de professionnels du droit ou du sujet qui peuvent nous accompagner et apporter un point de vue autre que celui de justiciable. Et après, pour les justiciables, bah, c'est adhérer à l'association éventuellement, faire un don, nous suivre lors de nos manifestations. On a régulièrement des gens qui, même s'ils ne sont pas adhérents à l'association, ils viennent lors des manifestations pour discuter, pour faire un repas. On a fait un repas il y a une semaine, donc ça me vient en tête, mais on a fait un repas tous ensemble la semaine dernière. Voilà, c'est des moments où on se retrouve et où on apporte chacun des pistes sur ce qui pourrait être dans le futur. Donc après, voilà, on cherche essentiellement des personnes qui nous aideraient à démarcher les politiques. Voilà. Mais en tout cas, nous, au niveau du financement, etc., on est une petite structure et on n'a pas besoin de beaucoup de financement. C'est essentiellement du bénévolat et du volontariat qu'on a besoin.
Pour terminer, quel message souhaiterais-tu adresser aux parents concernés par ces enjeux ?
Alors, les parents qui sont concernés par ces enjeux, il ne faut surtout pas qu'ils restent seuls. C'est important de s'entourer, sa famille, ses amis, éventuellement des associations. Enfin, voilà, faut pas rester seul. C'est important. On se sent vite démuni, on se sent perdu, on comprend pas ce qui se passe. Donc c'est important d'être entouré dans ces moments-là. Et puis, ben, faites-vous entendre, participez. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des choses simples à faire, des pétitions, envoyer un mail. C'est des choses toutes bêtes. Alors, on a l'impression que ça marche pas. Pourquoi ? Parce que ceux qui étaient là il y a 4 ans ne le font plus puisqu'ils sont fatigués. Mais si tout le monde s'y met aujourd'hui, aujourd'hui on parle de millions d'enfants qui sont privés d'un de leurs parents, donc potentiellement au moins autant de parents qui sont privés d'enfants. Il faut réussir à se faire entendre, même si ça nous prend que 2 minutes par mois d'envoyer 2-3 mails. Voilà, il faut en parler autour de soi et surtout rester entouré, c'est super important.
Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, à l'instant, vous venez d'entendre l'interview de Maxime Viljebert, président de l'association Égalité Parentale. Un témoignage fort, porteur d'espoir pour de nombreux parents.